Et vous êtes toujours à Au quotidien sur les ondes de Canal M en compagnie de Laurent Trépanier-Capistran pour toute la semaine. Et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Martine Delvaux en entrevue parce que tout le mois d'août, le Théâtre Outremont présente des films qui mettent en vedette des femmes. Et suite à la présentation de certains de ces films-là, eh bien, il y aura lieu d'avoir plusieurs discussions avec différentes intervenantes et dont Martine Delvaux, notre invitée d'aujourd'hui, qui est professeure au département d'études littéraires et écrivaine. Tout d'abord, bonjour Madame Delvaux.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous avoir au micro. Sans plus tarder, ma première question, pourquoi est-ce que vous avez accepté de participer à ces discussions-là qui suivent les films qui sont présentés au Théâtre Outremont, des films vraiment de tout acabit, hein?
Oui, de tout acabit, mais qui, dans tous les cas, ont été, en fait, pour la plupart, sauf celui que je présente d'ailleurs, ce qui est quand même l'ironie, ont été faits par des femmes et mettent en scène des personnages de femmes qui sont extrêmement importants pour l'histoire du cinéma. Parler de Thelma et Louise, c'est comme une invitation que je peux pas refuser. C'est un film que j'aime tellement, sur lequel j'ai écrit un livre. Et donc, quand on m'a invité, j'ai accepté, évidemment, pour pouvoir continuer à mettre en lumière ce film-là, qui a été tellement important au début des années 90, mais on se rend compte aujourd'hui que les jeunes personnes le redécouvrent, mais ne le connaissaient pas. Dans bien des cas, c'est étonnant pour moi, là, mais c'est vrai que c'est un classique pour les gens de la génération, mais pour les personnes plus jeunes, pas nécessairement.
Je ne sais pas si je suis une personne jeune, mais l'entrevue avec vous, Martine Delvaux, m'a permis de voir ce film-là, Thelma et Louise, que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié. Vous disiez, c'est le seul film qui n'a pas été réalisé sur la liste là, des films qu'on pourra voir au Théâtre Outremont. C'est le seul film qui n'a pas été réalisé par une femme. Ouais. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est un film qui est féministe, par exemple?
Ah, absolument. Oui, absolument. Et Ridley Scott a réalisé le film, mais c'est à partir du scénario de Callie Khouri, qui est un des meilleurs scénarios de ce que j'ai lu, de ce qu'on en dit, là, de l'histoire du cinéma écrit par une femme. Un scénario tellement fort que quand il a été lu par Gina Davis, une des deux vedettes, une des deux héroïnes, elle a insisté, elle a tout fait pour pouvoir avoir un rôle, tellement le scénario était impressionnant. C'est un des premiers scénarios qui a été écrit où on voyait des femmes ordinaires, en fait, où des femmes qu'on pouvait imaginer dans le public se verraient représentées à l'écran. Donc, si Ridley Scott l'a fait, c'est parce qu'il n'arrivait pas, lui, à trouver un réalisateur. Tous les réalisateurs approchés qui étaient des hommes disaient « c'est un film de filles, c'est un petit film, personne ne va vouloir voir ça, c'est pas intéressant ». Et Ridley Scott, au final, il était le producteur, mais au final, il l'a réalisé et il disait « mais non, mais le troisième personnage du film, c'est le paysage ». Et comme on connaît Ridley Scott, et c'est quand même une folie des grandeurs, il a filmé le désert, par exemple, ou les grands déserts, c'est pas le Grand Canyon pour vrai, là, mais c'est analogue à ça, avec un tel prestige, une telle grandiosité que de fait, on comprend pourquoi il a accepté de faire ce film. Il est considéré quand même comme un réalisateur féministe. Hein. Il a quand même fait Alien en 85, qui était peut-être un des premiers films qui répondait au test de Bechdel, qui était un test, on disait, il y a deux femmes qui doivent se parler d'autre chose que d'un homme. Ça, c'est quand même... Il y a peu de films qui nous montrent ça. Hein? Et pendant longtemps, quand on mettait des femmes à l'écran, elles parlaient ensemble, mais d'un homme. Donc, Thelma et Louise répond bien évidemment à ce critère-là, mais Alien déjà répondait à ce critère-là. Donc, Ridley Scott, élevé par une mère féministe, on n'est pas étonné qu'il ait fait le film.
Et on est entré là, dans le vif du sujet, on s'est mis à parler de ce film Thelma et Louise. Peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs, de nos auditrices, c'est et c'est peut-être une question qui paraît plus anodine qu'elle ne l'est en réalité, mais c'est un film à propos de quoi, Thelma et Louise?
Callie Khouri disait, c'est un film, l'histoire de deux femmes qui étaient devenues trop grandes pour le monde. Donc, c'est vraiment deux femmes ordinaires, une qui est serveuse dans un diner, l'autre qui est une femme au foyer. Donc, ça se passe, disons, en 89-90, là. Et elles partent pour passer un week-end, donc c'est deux meilleures amies, une qui est plus âgée que l'autre, à peu près 10 ou 15 ans. Elles partent ensemble pour passer un week-end dans un chalet, une sorte de camp dans les montagnes qui leur a été prêté par un ami. Et en route, elles arrêtent dans un bar, elles dansent, Thelma, donc la plus jeune, se met à boire. Elle danse avec un homme qui, de toute évidence, veut la séduire, et puis il la viole dans le parking. Et au moment de partir, elle finit par être libérée parce que Louise arrive, elle a un pistolet dans son sac à main, et elle le menace, donc il la laisse aller, il laisse aller Thelma, mais au final, Louise lui tire dessus, elle le tue. Et à partir de là, elles sont en cavale. Donc ça se passe au tout début du film, mais le film porte sur le voyage. Au fond, c'est toute la traversée des États-Unis parce que leur plan, c'est d'aller au Mexique pour échapper à la loi.
Oui, cette cavale-là qui, on l'imagine bien, est une cavale géographique, mais aussi une cavale mentale, sentimentale.
Absolument.
Hein? Donc, et dans ce film-là, on voit dans plusieurs scènes, parce que vous l'avez dit, hein, les deux protagonistes sont en cavale, on voit dans plusieurs scènes un groupe de policiers qui essentiellement sont à leur recherche, constitués exclusivement d'hommes, qui sont en général dans plusieurs scènes en compagnie du mari de Thelma, qui est... qui n'est pas un homme qu'on a envie de fréquenter. Exact, c'est pas exactement le parfait portrait du meilleur partenaire, je vais dire ça comme ça.
Tout à fait, c'est un macho, hein? C'est un vrai de vrai macho.
Tout à fait, plusieurs éléments misogynes là, dans ce personnage-là. Est-ce qu'on peut dire que ça, dans ces scènes-là, ce groupe de policiers-là, cet homme-là, est-ce qu'on peut dire que c'est finalement une certaine représentation cinématographique assez... assez à l'avant-garde d'un boys club?
Ben oui, moi je dirais, oui, je pense que là, on est très clairement dans un clivage de l'espace social, si on veut.
Mm-hmm.
On a vraiment les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Mais ce qui est intéressant, puis je pense que c'est ce qu'il faut noter, ou en tout cas, il faut être attentif à ça quand on voit le film, c'est que dans tous les cas, il y a une sorte de transgression des genres. C'est-à-dire que Thelma et Louise, dans leur cavale, commencent très féminines, mais au fil du temps, vont devenir de plus en plus masculines, si on veut. Elles vont se couvrir de poussière, vont arrêter de se maquiller, s'habiller exclusivement en jean, elles vont prendre un chapeau de cow-boy, enfin, une casquette. Donc, elles vont arborer les attributs de la masculinité. Et par opposition, les hommes qui sont très masculins au départ vont tranquillement montrer des traits qui sont plus féminins. Donc, le mari de Thelma, il se met à pleurer à un moment donné. Mm-hmm. Il y a le détective aussi, la figure du détective, qui est une figure masculine, très typique aussi des films, thriller ou action dans ce genre-là. Mais c'est Harvey Keitel, qui est quand même un homme assez court, qui est petit, donc qui ne correspond pas non plus au canon de la masculinité, et qui, tout au long du film, est du côté des filles, en fait. Il les protège, il veut les protéger, il veut les sauver. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le film de Kelly Curry et Ridley Scott, c'est que c'est un film qui mélange les genres aussi, qui ne respecte pas les catégories, même si au départ, tout est placé de manière très clichée, très stéréotypée.
Et est-ce que c'était l'une des premières fois qu'on pouvait voir ça au cinéma, c'est-à-dire cette espèce de tentative de briser là, des normes qui sont très genrées, c'est-à-dire un homme, ça ne pleure pas, puis etc., ce que vous venez de nous expliquer. Est-ce que c'était une des premières fois ou si on avait vu ça plusieurs fois avant d'en arriver à Thelma et Louise en 91?
Ben là, je n'ai pas une connaissance suffisamment grande de toute l'histoire du cinéma, là, fait que je ne m'aventurerais pas pour dire que c'est la première fois. Je pense qu'il y a des choses qui ont été faites avant qui allaient dans ce sens-là. Je pense à quand j'ai écrit le livre Thelma, Louise et moi, je suis allée voir quel film avait été fait autour de Thelma et Louise, donc avant, après. On oublie, par exemple, qu'un film comme Extremities, dans lequel jouait Farrah Fawcett, qui est un rape and revenge, donc un viol et vengeance, un film de viol et vengeance, a été fait avant Thelma et Louise. Et le rôle de Farrah Fawcett, qui pourtant était le canon de la beauté féminine de l'époque, hein, on se souvient d'elle dans Le Calendrier, avec son maillot rouge, dans Charlie's Angels et tout, elle tourne les tables, comme on dit en anglais, là. Elle prend son violeur au piège. Et elle se met presque à le torturer. Donc, il y a déjà là un renversement de la vapeur qui précède Thelma et Louise. Donc, je ne dirais pas que Thelma et Louise, c'est le premier. Je ne sais pas si c'est si important que ce soit le premier, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce film-là est construit, comment lui le fait. Et on a beaucoup comparé, on a dit, bon, ben, c'est Butch and Cassidy and the Sundance Kid pour les femmes. Donc, on reprend les codes du western, par exemple, mm-hmm. et on les féminise. On inverse les rôles. Ça a fait hurler beaucoup de monde, mais c'est aussi la grande force du film, c'est ce qui en fait un classique.
Tout à fait, et c'est vrai qu'on y voit là, des liens à faire avec des westerns, si parfois vous aimez l'esthétique aussi du western, je pense que Thelma et Louise, ça pourra vous intéresser. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, tout ça débute par un viol, et ensuite va s'en suivre... ce qu'on pourrait appeler de la self-defense, là, qui va mener au décès d'un personnage. Donc, et c'est ce qui pousse Thelma et Louise à partir en cavale. Entre autres parce qu'elles sont convaincues, hein, elles le disent à quelques reprises durant le film, qu'elles n'ont aucune chance d'expliquer ce qui s'est réellement passé devant les tribunaux.
Exact.
Une des deux protagonistes dit même qu'elles n'ont aucune hard evidence, donc aucun élément de preuve matérielle là, en français ou dans notre système. Autrement dit, qu'est-ce qu'on lit entre les lignes, c'est que c'est leur parole contre celle des hommes, en quelque sorte, hein, des policiers ou encore des pères de cet homme qui a été tué.
Oui.
Est-ce que, au travers de ce film-là, on peut déjà, et ça a fait les manchettes là, à plusieurs reprises récemment, mais est-ce que déjà, là, on peut voir une critique de l'appareil judiciaire en matière de crimes sexuels dans ce film?
Ah oui, absolument. Je pense que ça, c'est la grande... c'est l'avant-garde qu'on trouve dans Thelma et Louise, mais qu'on trouvait aussi dans The Accused, par exemple, hein, qui précède aussi Thelma et Louise. C'est une critique déjà de ce qu'on appelle maintenant la culture du viol. À l'époque, l'expression existait puisqu'elle a été fabriquée, si on veut, par les féministes dans les années 70, mais personne s'en servait vraiment. Mais Thelma et Louise nous parle de ça. C'est très clair. En fait, l'actualité de ce film, sorti en 91, c'est quand même hallucinant. À quel point il nous parle aujourd'hui, il nous dit la même chose que le documentaire La parfaite victime ou le roman de Christine Bouillet, Sa parole contre la mienne. Enfin, on est vraiment dans cette critique-là d'un système qui refuse d'entendre la parole des femmes qui sont physiquement violentées et sexuellement violentées. Et dans le film, ce qui est intéressant, c'est la scène de viol elle-même, qui probablement aujourd'hui serait pas filmée comme ça, parce qu'elle est extrêmement, extrêmement dure, cette scène. Peut-être qu'on ne ferait pas les choses de la même façon aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est filmée de telle sorte que, par exemple, on ne sait pas s'il y a eu pénétration lors du viol ou non. C'est pas clair. Il n'y a rien de clair. Mais la violence du geste, la sexualité du geste est nommée, est indéniable. Donc, il y a aussi tout ce que Louise ne raconte pas. Donc, il y a un secret chez Louise qu'elle porte. Et on devine que c'est là aussi une expérience du viol. Mais elle refuse de le raconter. Donc, on est dans deux impossibilités. Donc, tellement qu'il ne peut pas aller à la police dire qu'elle a été violée parce que, faute de preuves, on les croira pas et puis elles vont être jugées coupables du meurtre de cet homme. Et Louise, qui, elle, ne veut pas expliquer pourquoi elle a agi comme elle a agi et continue à agir comme elle agit, parce qu'il lui est arrivé quelque chose au Texas. Donc, elle refuse de traverser l'État du Texas, mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est vraiment intéressant, parce que ça donne ça en dit long sur... Le rapport à la parole quand on est victime de violences sexuelles.
Oui, tout à fait. Et on sent aussi dans ce film-là que le crime, parce qu'il y en a d'autres qui seront commis au fil des crimes pluminaires, là, mais qui seront commis au fil du film, justement, on sent que ce crime-là apporte une certaine libération aux deux personnages principaux. Est-ce que c'est une métaphore pour souligner que la norme patriarcale doit être brisée, ou s'il y a plus, ou si on peut parler, par exemple, d'un film révolutionnaire?
C'est une bonne question. Je pense que ça dit que le patriarcat est un corset. Je pense que ça dit que la domination masculine est un corset pour les femmes, qui les empêche littéralement de respirer. Les crimes qui suivent le premier crime, c'est parce qu'elles fuient, mais c'est aussi parce que des hommes leur continuent à leur faire du tort. Quand elles se font voler leur argent, par exemple, mais c'est un homme qui leur vole leur argent. Donc, à chaque fois qu'il y a un autre crime qui s'ajoute, c'est parce qu'il y a un homme qui leur fait du tort. Et c'est là que c'est intéressant comme enchaînement des choses. Et ça, c'est vraiment un message où, en tout cas, ça s'adresse à la domination masculine de façon générale, c'est sûr.
Et donc, peut-être rapidement, on a parlé aussi beaucoup, c'est ça, de ce patriarcat-là, de ce corset-là. Et il faut quand même mentionner. J'ai quand même perçu, et dites-moi si vous êtes d'accord, mais j'ai quand même perçu que certains personnages d'hommes qui portent un peu d'espoir, même le mari de Louise, dans une certaine conversation, on sent pas que c'est un enfant de cœur, mais on voit qu'il y a un fond avec lequel on pourrait travailler, là.
Ouais, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, en fait. C'est un acteur que j'aime beaucoup, que j'ai revu récemment dans la télésérie Hacks, par exemple. On l'a pas beaucoup vu hein, à l'écran après Thelma et Louise, mais bon, il est encore là. Et dans le film, même s'il est imbuvable dans sa petitesse d'esprit, dans sa grossièreté, sa vulgarité, puis surtout dans sa manière de traiter Louise comme une femme de ménage, là, je veux dire, c'est vraiment pas, il la voit comme moins que rien. Il y a des moments où je l'aime dans son rapport aux policiers, justement. Il y a des scènes où on le voit essayer de se rebeller un peu contre l'invasion des policiers dans sa maison. Il y a un côté attendrissant chez cet homme-là. Quand le film est sorti, on a accusé Thelma et Louise de faire du male bashing, donc d'être un objet plein de misandrie, de haine contre les hommes, alors que c'est pas vrai. C'est vraiment une... La réaction de Callie Curry, ça a été de dire « Si vous pensez ça, vous ne vous identifiez pas au bon personnage. »
Tout à fait. C'est beaucoup plus nuancé que ça, je pense, film-là.
Oui, et... ça fait tableau de chasse d'hommes, comme on le fait tout le temps des femmes, d'ailleurs, mais avec tendresse, ce que je trouve quand même fabuleux.
Et en terminant, il nous reste seulement quelques secondes, Martine Delvaux. Quand est-ce qu'on peut venir voir Thelma et Louise et discuter avec vous suite à la présentation?
Attendez que je vérifie. Je pense que c'est le 29 août à Outremont à 20h30, le film.
Eh bien, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Martine Delvaux.
Merci à vous. Bonne journée.